Audiolib présente Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, lu par François Cognard. Pour tous les grands-parents du monde. Prologue. N'y plus rien voir. Tout devint sombre. Ce fut comme un habit de deuil. Et puis, ça et là, des scintillements, à la façon des taches que produit le soleil quand les yeux le fixent en vain derrière les paupières serrées, de même qu'on serre le poing pour résister à la douleur ou à l'émotion. Bien sûr, elle n'avait pas du tout décrit la chose ainsi. Dans la bouche d'une enfant de 10 ans, fraîche et inquiète, la détresse se formule sèchement, sans fioriture ni lyrisme. « Maman, c'est tout noir !» Mona avait lancé ces mots d'une voix étranglée. Une plainte, oui, mais pas seulement. Elle y avait, malgré elle, glissé un accent de honte que sa mère, chaque fois qu'elle l'identifiait, prenait avec gravité. Car s'il était bien quelque chose que Mona ne feignait jamais, c'était la honte. À peine celle-ci se nichait-elle dans un mot, une attitude, une intonation, que le sort en était jeté. Une vérité désagréable avait pénétré. « Maman, c'est tout noir !» Mona était aveugle. L'effet semblait dépourvu de cause. Rien de particulier ne s'était passé. Elle travaillait sagement à ses mathématiques, un stylo dans la main droite, un cahier coincé sous la paume gauche, à l'angle de la table où sa mère truffait d'ail un rôti bien gras. Mona était en train de retirer délicatement de son cou un pendentif qui la gênait parce qu'il se balançait au-dessus de sa feuille d'exercice et qu'elle avait pris la mauvaise habitude de se voûter pour écrire. Elle sentit une ombre lourde s'abattre sur ses deux yeux, comme s'ils étaient punis d'être si bleus, si grands, si purs. L'ombre ne vint pas du dehors, ainsi qu'elle vient communément, quand la nuit tombe ou quand les lumières d'un théâtre baissent d'intensité. L'ombre s'empara de sa vue depuis son propre corps, depuis l'intérieur. En elle-même s'était insinuée une nappe opaque qu'il l'avait coupé des polygones tracés sur son cahier d'écolière, de la table en bois brun, du rôti posé plus loin, de sa mère en tablier blanc, de la cuisine carrelée, de son père assis dans la pièce à côté, de l'appartement de Montreuil, du ciel grisé de l'automne qui surplombait les rues, du monde entier. L'enfant, par un sortilège, plongeait dans les ténèbres. Fébrile, la mère de Mona téléphona au médecin de famille. Elle décrivit confusément les pupilles voilées de sa fille et précisa, parce que le docteur le lui demandait, qu'elle ne semblait souffrir d'aucun trouble du langage, ni de paralysie.
« Cela ressemble à un AIT »,
lâcha-t-il, sans vouloir se prononcer davantage. Il exigea dans l'immédiat de fortes doses d'aspirine et surtout l'acheminement en urgence de Mona à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, où il appellerait un confrère pour une prise en charge instantanée. Il ne pensait pas à lui par hasard. C'était un pédiatre formidable, réputé par ailleurs pour être un très bon ophtalmologue et accessoirement un hypnothérapeute de talent.
« Normalement, conclut-il, la cécité ne devrait pas excéder 10 minutes. »
Et il raccrocha. Il s'était déjà écoulé un bon quart d'heure depuis le premier cri d'alarme. Dans la voiture, la fillette pleurait, se tapait les tempes. Sa mère lui tenait les coudes, mais au fond d'elle-même, elle aurait aussi voulu taper sur cette petite tête rondelette et fragile, comme on cogne sur une machine en panne, en espérant bêtement la faire redémarrer. Le père, au volant de sa vieille Volkswagen cahotante, souhaitait attraper le mal dont sa petite était victime. Il était fâché, persuadé qu'il s'était passé un événement dans la cuisine et qu'on le lui cachait. Il